Bonjour à tous. Voilà, c'est avec une grande joie que nous allons partager et que je partage avec vous cette réflexion cet après-midi. Il est vrai que c'est la première fois que j'apporte ici un message le dimanche après-midi, mais est-ce que c'est pas le même Dieu ? Ah, vous me rassurez, ça va. Et vous n'allez pas me manger, j'en suis sûr. Pendant que vous ouvrez la parole de Dieu dans le livre de Deux Rois, au chapitre 5 et au verset 1. Comme l'a dit ce chant, dans le monde, qu'est-ce qui fait notre gloire? Qu'est-ce qui fait un peu notre identité? D'ailleurs, c'est la richesse, nos richesses et nos biens. C'est notre gloire personnelle, c'est nos efforts, nos mérites. C'est ça un peu qui fait notre identité, c'est ce qu'on met sur nous, nos habits, notre voiture peut-être. C'est un petit peu tout ça qui fait notre identité. Alors qu'au final, devant Dieu, ce qui fait notre identité, c'est est-ce qu'on est à Christ ou est-ce qu'on ne l'est pas. C'est ça qui peut changer quelque chose quant à notre identité, quant à notre éternité surtout. Et d'ailleurs, au-delà d'une apparence, je pense qu'il y a une affaire bien plus sérieuse. La plupart d'entre vous l'avez bien compris. C'est l'affaire de notre éternité, de notre salut. Que nous puissions tous avoir ces choses dans notre cœur. Si quelqu'un est nouveau cet après-midi, si quelqu'un ne connaît pas l'Évangile, ne connaît pas le Seigneur Jésus, comme ce chant l'a dit, Jésus a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions avoir comme espérance le paradis, comme on l'appelle si bien dans le monde, ce paradis, cet endroit où il y a la paix, la félicité éternelle, où il y a un bonheur, quelque chose qui dépasse toute imagination, quelque chose de beau, de merveilleux, et ce, non pas pour un temps, mais pour l'éternité. Mais Jésus, c'est lui qui a payé de sa vie pour que nous puissions rentrer dans cette éternité-là. Il y a une autre éternité dont la Bible nous parle. Cette éternité s'appelle dans la vie de tous les jours l'enfer. Et cet enfer, Dieu ne veut surtout pas que nous y allions. Mais le péché qui s'est attaché à nous, le péché qui nous saisit si facilement, qui nous enveloppe si facilement, comme le dit la parole de Dieu, eh bien, et là, il nous empêche d'avoir comme espérance le paradis, mais il nous plonge dans une espérance, non pas une espérance, mais un avenir. Il nous projette dans un avenir bien noir, l'enfer. Un lieu de ténèbres, un lieu de souffrance, et on pourrait dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet cet après-midi. Puissiez-vous en tout cas avoir choisi le meilleur endroit, et cet endroit passe par un chemin, et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Donc, Deux Rois, chapitre 5 et verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et du grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Je ne sais pas si vous, quand la lecture est longue parfois, lorsqu'on n'a pas la Bible sous les yeux, on a du mal à suivre toute l'histoire, d'autant plus quand on ne la connaît pas. D'ailleurs, si quelqu'un n'a pas la Bible, il peut la demander. À la sortie, on lui en offrira une. Alors, je vais faire un petit résumé. Naaman est là. C'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Il est lépreux, un homme puissant, un homme avec une certaine renommée. Et on voit que cette gloire, cette renommée ne lui sert à rien. Il est lépreux, il va mourir. Il est lépreux, il est impur. Et alors qu'il est là, qu'il est condamné, son sort est là, plus entre ses mains en tout cas, et il ne sait plus quoi faire. Il entend la voix d'une petite fille qui est la servante de sa femme. Petite fille qui a entendu parler d'un prophète en Israël et qui parle à la femme de Naaman et lui dit « Voilà, si mon maître, il allait là-bas, et s'il connaissait le prophète, tout ça, il verrait qu'il y a un Dieu là-bas en Israël et qu'il pourrait être guéri. » Naaman demande à son supérieur s'il peut y aller, qu'il a l'autorisation, il y va. Et puis voilà que le prophète lui demande quelque chose, « Lave-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. » Naaman est énervé. Naaman ne comprend pas. Naaman s'attendait à une autre solution. Il dit il aurait pu au moins ne serait-ce que venir me voir, me répondre face à face. Il dit autre chose, il dit voilà, il aurait pu au moins choisir une eau plus pure. Mais on voit qu'Élisée lui dit non, tu vas aller 7 fois là-bas. Quelques gens intelligents parmi ses serviteurs lui disent voilà, écoute, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Alors va, lave-toi. Naaman va, se lave combien de fois ? 7 fois, comme on lui avait demandé. Et comment il sort ? Tout pur. On peut prier, s'il vous plaît, quelques instants ? Seigneur, je te remercie parce que tu permets ces moments, tu nous as donné cette salle. Tout ce qu'on a, ça vient de toi. Tout ce qu'on a, c'est par toi que nous l'avons, c'est parce que tu nous le donnes, parce que tu as tout créé, tu as tout fait, la vie, tout ce qu'on a, ça vient de toi. Alors un grand merci. Nous n'aurons jamais suffisamment d'occasion pour te dire merci à la juste valeur. Nous ne pourrons jamais, Seigneur, exprimer des mots suffisants, même des émotions ou des sentiments suffisants pour t'aimer à sa juste valeur. Mais simplement, nous voici cet après-midi pour entendre parler de toi et pour appliquer peut-être ce que tu nous diras. Si nous daignons prêter l'oreille à ton conseil, tu me permets, Seigneur, de ne point dire des choses qui ne viennent de moi. Et si c'était le cas, tu fais en sorte que personne ne s'en souvienne, Seigneur, car ce n'est pas ça qui est important, ce que je dis, mais ce qui est important, c'est ce que tu veux dire. Sois béni, Jésus, pour nous aider, Seigneur, dans toutes ces tâches, moi comme ceux qui entendent, Seigneur. Amen. Amen. De nos jours, on voit que tout va très vite. Tout va très 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 vite. Dans le monde, autrefois, il y avait, pour aller à un endroit, on apprêtait le cheval, on lui mettait ce qu'il fallait sur lui, on montait, on allait à cheval, il fallait le fixer, l'attacher, enfin bref, tout prenait du temps. Pour revenir, si on n'avait pas de cheval, on allait à pied, et il fallait des heures et des heures de marche. Quand on voyageait, il fallait des heures, des jours entiers pour voyager. Quand on voulait faire la lessive, mesdames, messieurs aussi, quand on voulait faire la lessive, ça prenait plus de temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il fallait prendre une corbeille, mettre tout le linge dedans, faire un bon tas, aller au bord de la rivière avec tout le matériel qu'il fallait, c'était lourd peut-être parfois, frotter pendant un bon moment et tout, et puis on revenait, ça prenait du temps. Pour toutes les tâches de la vie, même la cuisine, on en parlait tout à l'heure avec ma femme et ma belle-sœur, on voyait que même pour faire la cuisine, c'était plus long. Aujourd'hui, on sort quelque chose du congélateur, le frigo, on l'a placé, le micro-ondes, on l'a placé pas très loin pour être encore plus rapide, gagner quelques secondes. Alors on ouvre le congélateur, on sort ce qu'on veut, une barquette, on ouvre le micro-ondes, on le met, on décongèle, on appuie sur un bouton. Parfois, il faut appuyer une deuxième fois pour augmenter le temps, trois fois comme ça, mais ça va vite, tac, tac, tac. On connaît par cœur, alors on a la manœuvre, et puis on y va vite, tac, 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 tac. On attend 30 secondes, une minute, deux minutes maximum. Ding, ça sonne, tout, on sort le plat est chaud, on pose. Il n'y a plus d'assiettes en porcelaine, en argent, maintenant on mange dans des assiettes en carton ou des barquettes comme ça, tac, tac, tac. On mange vite, parfois tout seul, comme ça, et puis on jette, et ça va très bien. Pour tout, c'est comme ça. Pour tout, 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 tout. Tout va très vite, mais est-ce qu'on ne réalise pas quand même qu'on a de moins en moins de temps ? On prend le moins en moins de temps de lire la Bible, on prend le moins en moins de temps pour prier, on a de moins en moins de temps pour passer du temps avec notre famille, pour se retrouver ensemble, autour de la table, ensemble pour faire, c'est vrai, un culte de famille, toutes ces choses, de moins en moins de temps. Tout va très vite, tout s'accélère, et on est de plus en plus dépassé. Pour l'eau, il fallait aller au puits. Hein, moi, j'ai jamais connu ça. Je tourne un petit truc, l'eau est cool, chaud, froid, comme je veux, et on remonte. Quand le chauffe-eau il tombe en panne, on le remplace, mais après, tout marche. De manière générale, ça va très très vite. Et tout le monde pareil, pour le gaz, pour tout, 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 c'est pareil. J'étais étonné de voir la première fois que je suis venu en janvier, j'ai vu la construction de ce grand immeuble-là, près du casino, quand on passe par la rocade, ces grands immeubles tout neufs, ces bureaux-là. Oh, mais ils sont immenses, immenses. Et pourtant, ça a été fait en moins d'un an, comme ça, tac, tac, pouf, ils sont sortis de terre, pouf, pouf, on se demande comment c'est fait, pouf, ça va très très vite. Autrefois, on faisait des châteaux, on faisait même la maison, mais ça prenait une petite maison, des mois, on y passait du temps. Pour les châteaux, c'est des dizaines d'années, et on s'y reprenait sur plusieurs centaines d'années, on améliorait petit à petit, on faisait des choses, et on agrandissait. Aujourd'hui, on n'a rien de temps, d'un champ tout plat, on en fait une tour. Pas de Babel, heureusement, mais pas loin, hein, des fois. On fait des choses, on remarque qu'on va plus vite, mais que la vie se dégrade. On me parlait de l'église d'Albi, la cathédrale d'Albi. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont vue. On m'a dit, mais c'est magnifique. Stéphanie est allée la voir jeudi, puisqu'elle est allée visiter un pasteur, et on l'a vue, voilà, elle m'a dit les détails, comment c'est façonné, comment c'est fait, chaque pierre, c'est beau et tout aujourd'hui. C'est du placo, c'est tout plat. Tout, 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 tout. C'est fait, c'est au pratique, c'est vrai, c'est bien. Ça va vite. Mais on y perd en qualité, qu'est-ce que vous en pensez ? On a l'impression que tout se ressemble, tout est gris. On met quelques couleurs pour aménager, mais c'est beaucoup moins beau quand même. Autrefois, ça avait de la valeur, d'ailleurs, ça coûtait plus cher. Mais au moins, peut-être, on comprenait encore mieux ce qu'on avait dans les mains. Tout va plus vite. Mais je pense que la qualité de vie se perd. Il y a des choses qui ont changé depuis quelques cent ans. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus normal de souffrir. Quand on a mal, c'est pas normal. Il faut absolument, alors on prend le médicament, on a mal à la tête, je le fais le premier, je prends quelque chose pour me soulager la tête. Quand on est dans les hôpitaux, bien on fait les soins nécessaires, là on vous anesthésie, tout ça. Même souffrir, c'est plus devenu normal et on va tout faire pour soulager. Il y a des choses que... À force de prendre un rythme et d'être dans un monde où tout s'accélère, on y perd en qualité de vie. Et même la souffrance, on ne sait plus profiter d'un moment de souffrance. On le fait passer vite, 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 et on ne réalise plus la qualité d'une vie sans souffrance. Parce qu'on n'est plus habitué à souffrir. Quand quelqu'un a souffert pendant des mois, des mois, des mois, et que d'un coup ça va mieux, il apprécie. Et aujourd'hui, on a tendance, alors je généralise pas, et c'est très très bien d'éviter la souffrance. Faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Ne dites pas, Jérémy, il a dit qu'il fallait laisser les voitures de côté, fallait tout faire à pied, fallait reprendre des chevaux. C'est pas ce que je dis. Tout est pratique, et c'est vraiment une grâce. C'est bien tout ce qu'on a. Mais on voit qu'on perd quand même, parce que les gens, au final, ils ne sont pas heureux. Les gens, ils sont de plus en plus dépressifs. Et même, ils nous disent, mais je ne sais pas pourquoi je vais mal. Je ne sais pas, ils ne savent pas dire pourquoi ils ne vont pas bien. Tout baigne dans la vie, ils ont tout ce qu'ils veulent. Plus de confort qu'il n'y a pas tellement longtemps. 50, 60 ans, il y avait encore des choses qui étaient assez dures, mais aujourd'hui... Et pourtant, tout va bien autour de nous, on a la vie, on a l'essentiel, mais ça ne nous suffit pas. Et je pense que toute cette manière de vivre à l'accélérer, tout ça nous fait croire que tout nous est dû. Tout nous est dû. Et combien de fois cette manière de vivre, cette manière de faire, nous affaiblit dans notre capacité à persévérer. On n'est plus du tout persévérant. Parce que tout va vite, un claquement de doigts et la télé s'allume, on a des informations sur le bout du monde, on veut écrire à quelqu'un ou parler à quelqu'un, et voilà, on l'a, en moins d'une minute, au bout du monde, téléphone, gratuit, en plus illimité, ça c'est génial, illimité, puis ça va vite, un mail, pouf, au bout du monde, en une seconde, c'est fait. Tout va très vite et on a l'impression qu'avec Dieu, on devient capricieux. Et on commence à dire au Seigneur, mais oui, voilà, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourtant, ça fait une semaine que je te demande. Oui, et oui, mais le Seigneur, il est hors du temps. Hors du temps, comme on y repense quelquefois, on en reparle. Le Seigneur, il est hors du temps. Et il voudrait qu'on apprenne et qu'on continue à travailler quelque chose, la persévérance. Si j'ai pris cet exemple, j'ai voulu quand même qu'on voit le contexte, mais l'exemple de Naaman, qui a dû persévérer dans quelque chose, eh bien, dans sa foi, dans sa confiance. Oh, Naaman, il n'avait pas beaucoup de foi, sûrement. Pas du tout, même. Mais après tout, je pense qu'au bout d'un moment, il s'est dit, et si c'est vrai, après tout, ce n'est pas si compliqué que ça, d'obéir, persévérer, comme ça, dans l'obéissance. Il est allé une fois dans l'eau, deux fois, trois fois. Est-ce que vous pensez que plus il allait dans l'eau, plus il était pur? Moi, je ne pense pas. Est-ce que vous pensez qu'à la sixième fois, il était plus pur déjà qu'à la première? Je ne pense pas. Je pense que c'est à la septième fois. Il aurait pu dire, allez, au bout d'une fois, ça ne marche pas. Bon, je réessaye une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Pff, il m'a dit sept, non mais il se moque de moi. D'ailleurs, il l'a dit au début. Il aurait pu le dire encore et abandonner. Il n'aurait pas eu la victoire. Je pense à Jéricho, cet exemple de Jéricho, où il dit pendant sept jours, vous allez faire en tout 13 fois le tour. Le dernier jour et sept fois le tour les autres jours. Faire le tour. Et s'ils avaient abandonné avant d'avoir accompli tout ce que Dieu leur avait demandé? Pourtant, ils ont persévéré. Ils sont allés jusqu'au bout. Pourquoi je parle de la persévérance? Bien simplement, c'est ce que j'ai eu sur le cœur, ce que je pense que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Pourquoi persévérer? Parce que souvent, on croit que pour traverser un mur, traverser une épreuve, traverser une difficulté, il suffit de prendre la perceuse, d'appuyer un petit coup et d'arrêter. Est-ce que c'est comme ça? Pas du tout. On prend la perceuse et on maintient l'effort pendant un moment, et puis d'un coup, pouf, même d'ailleurs, on traverse. Vous voyez? Il faut continuer et persévérer avec notre effort. Si je prends un bouchon dans l'eau, je veux qu'il soit complètement immergé. Je veux qu'il soit sous l'eau. Un bouchon en liège. J'appuie, si je relâche de suite, est-ce qu'il va rester sous l'eau? Non. Bien souvent, on veut la présence de Dieu. On l'a eu un grand moment d'émotion, quelque chose. Et c'est vrai, pendant un message, pendant un camp, pendant quelque chose, on s'est vraiment concentré sur le Seigneur Jésus. On a ramené toutes nos pensées sur le Seigneur. Et puis, on a fait un effort à un moment donné. On a mis en action notre foi. Et puis, on quitte le camp et puis tout s'arrête. On quitte la réunion, on retourne à la maison. Puis, ça y est, le moment, l'émotion est passée et il ne reste plus rien. Mais parce que quand on quitte la réunion, quand on quitte le moment où on a été touché, ou ce moment où on a reçu un message de la part de Dieu, eh bien il faut persévérer, il faut continuer après. Il faut garder le doigt appuyé sur ce bouchon, parce que sinon le bouchon il remonte à la surface. Si on veut rester plongé dans la présence de Dieu, il faut persévérer dans nos efforts, garder nos pensées captives, garder notre cœur fixé, nos yeux fixés sur Jésus, notre cœur eh bien attaché à Christ. Ce chant qui disait, si tu t'attaches à lui, dans son ciel, il te prendra. Et il nous a dit que ceux qui persévéreront seront sauvés. Alors persévérer dans la foi, pourquoi? Parce que c'est dit simplement dans Actes, prenez avec moi le livre des Actes, au chapitre 14. Quelqu'un un jour a donné ce conseil, persévérer dans la foi. Est-ce que vous savez qui c'est? Paul, exactement. Acte 14, 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à quoi? À persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul vient de se faire lapider. Paul vient de se faire presque mis à mort. Il était juste au point, on croyait qu'il était mort, tellement il était mal en point, j'imagine. Lapider, c'est prendre des cailloux hein, sur soi. On voulait le tuer à coups de cailloux, et Paul a dû tomber, Paul devait être mal en point, et il était là, pensant qu'il était mort, il se sent en allé, et croyait qu'il était mort, lui il était mal en point, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples l'ont entouré, et il s'est relevé. Paul aurait pu dire, bon ça y est, c'est fini, maintenant je vais me faire discret. Il aurait pu dire, maintenant j'arrête. Non, il nous dit qu'il rentre dans la ville, après qu'il part, et qu'est-ce qu'il fait? Il évangélise à nouveau. Oh, qu'est-ce qui compte dans sa vie au Seigneur, au serviteur Paul, aux disciples, à cet apôtre? Qu'est-ce qui compte à Paul? Pour Paul, eh bien c'est qu'on puisse garder la foi, c'est que la foi puisse se répandre, la bonne nouvelle puisse se répandre, et c'est ce qui compte pour lui, c'est de prêcher l'évangile, c'est d'évangéliser. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas. Malheur à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il fait des disciples. Et le conseil qu'il leur donne, c'est quoi? Persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. C'est un ordre de la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous réfléchissiez 30 secondes. Est-ce que les plus belles victoires, spirituellement parlant, que vous avez remportées, n'ont pas été celles que vous avez prises après de longs moments de tribulation, de longs moments d'épreuves? Moi, des épreuves que je me souviens, et des plus belles victoires que je me souviens, c'est des choses qui m'ont gêné dans ma vie pendant longtemps. Et quand j'ai pris une victoire, je m'en souviens. J'ai dit, oula, ce jour-là, je sais que j'ai pris la victoire. Quand j'étais petit, j'ai appris que j'avais l'hépatite B. Et puis j'étais là, j'étais mal en point. Et puis, y avait une dépression qui était là derrière, j'étais très mal. Et alors que j'étais en dépression, j'apprends que j'ai l'hépatite B. Et puis, l'hépatite B, c'est grave quand même. Alors examen, tout ça, j'avais 9 ans. Et j'étais mal, je disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir, ça m'a fait comme un électrochoc, du coup ça m'a sorti de ma dépression, ça c'est clair. Mais j'étais là, je ne comprenais pas. Et puis au final, on a regardé, et le Seigneur avait déjà posé sa main. Dans mon corps, eh bien j'avais l'hépatite B qui était là, mais c'est comme si mes anticorps étaient déjà en action, c'est comme si j'avais déjà été vacciné. Et on ne sait pas pourquoi, j'avais été gardé, mais c'était là. Et on m'a dit, vous aurez ça, vous traînerez ça. Et vous risquez peut-être d'être contagieux ou quoi, plus tard. Et ça m'a toujours inquiété. Et à chaque fois, pourtant j'étais jeune, j'étais petit, mais je gardais cette inquiétude. J'étais là, je me disais, oh, si jamais, je sais pas, ça revient, si jamais ça se déclenche à nouveau, si jamais ça, je pouvais le passer à quelqu'un d'autre, et si jamais le jour où je me marie, où je veux des enfants, eh bien ça se passe, je savais pas, c'était une inquiétude. Justifiée ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me souviens d'un camp, après des années où ça m'a perturbé, un camp où j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je te laisse ce problème. Et je crois que même si je venais de faire des thèses, j'avais encore l'hépatite B en moi. Et j'ai dit, Seigneur, si jamais je te demande, je te donne ma vie, et je veux vraiment tout te donner, mais cette inquiétude aussi, je veux la déposer à tes pieds. Seigneur, tu me libères de cette inquiétude et tu me guéris. Je dis, Seigneur, guéris-moi, je t'en supplie. Il y avait eu 3 jours de camp, j'ai prié, et puis au final... Dans la soirée où j'ai prié, dans ce moment-là, j'ai été convaincu que j'étais guéri. J'avais aucune preuve que j'étais guéri. Mais j'étais convaincu, ce jour-là, j'ai pris la victoire sur ma peur. Pour vous dire, mais est-ce que vous avez été guéri, Jérémy? Ce moment-là, un peu après, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est quand j'ai brûlé à l'accident, j'avais 20 ans, des années après, 5 ans après, on m'a fait des tests sanguins, j'avais plus rien dans mon corps. Effectivement, c'était complètement parti. Ça, c'est... Le fait de persévérer dans la foi, même si on ne voit pas les choses évoluer, si ça fait des années qu'on traîne, les plus grandes victoires sont souvent suite à des longues épreuves. Alors il ne faut pas perdre espoir. Et dans Hébreux 6, au verset 13 à 15, si vous voulez, je vous le lis, si vous voulez pas chercher. Hébreux 6, au verset 13, il nous est parlé de quelqu'un qui a marqué l'histoire, lui aussi. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Et souvent on pense aux années où Abraham a dû attendre la promesse. Mais on oublie souvent que ça faisait déjà des dizaines d'années sûrement qu'il essayait d'avoir un enfant. Des dizaines et des dizaines d'années. Il avait combien? 90 ans? Il était âgé. Ça faisait combien d'années que Abraham essayait d'avoir un enfant? Nous, on dit, ah, il a attendu tant d'années entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, mais il y a tout ce qu'il y avait avant. Et malgré tout ce qu'il avait vécu avant, plus l'attente après la promesse, Abraham a tenu bon, il a persévéré dans sa foi, il a tenu jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu la promesse s'accomplir. Persévérer dans la foi. On va faire une deuxième lecture, une autre lecture dans Actes, au chapitre 2. Il nous est parlé des premiers chrétiens qui avaient quelque chose de particulier, qui ont compris très très vite quelque chose pour que l'église de Dieu soit épanouie, pour que l'église du Seigneur naissante soit vraiment actrice, qu'elle puisse gagner du terrain, qu'elle puisse grandir. Ils ont compris quelque chose. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de ses disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de l'Éternel, la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils persévéraient, ils ont compris dès le départ que si on veut être vainqueur dans la vie, si on veut régner dans notre vie chrétienne, si on veut vivre des victoires, vivre des prodiges, vivre quelque chose, si on veut que aussi de 3000, on passe à 5000, puisque c'est ce qui s'est passé juste après. Si on veut qu'on progresse, si on veut gagner du terrain, si on veut voir la main de Dieu agir au milieu de nous, il faut persévérer, non pas dans des actions sociales, c'est pas ce qu'il disait, non pas dans diverses choses, ça c'est du plus, mais les choses dans lesquelles il faut persévérer et qui nous sont données, c'est la communion fraternelle. D'abord, bien sûr, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, dans Actes 17, 10-11, j'aimerais faire une nuance. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Qui venait de qui? De Jésus-Christ, du Seigneur. Souvent, on croit que pour rester, pour obéir à ce commandement ou à ce conseil qui dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres, on croit qu'il faut simplement persévérer dans des enseignements quelconques. Et alors, on se met à acheter une grande bibliothèque, plein de livres, et on lit plein de choses et on ne vérifie même plus si c'est dans la Bible, si c'est conforme à l'enseignement de Jésus-Christ, si c'est conforme à l'enseignement des apôtres dans les épîtres. Et il est important, et en ce moment avec M. Olé, toute une équipe, l'équipe pastorale, et puis les autres, les responsables, on est en train de se remémorer, de travailler, de comprendre qu'il est important pour nous chrétiens de vérifier si ce qu'on croit, si ce qu'on nous dit, si ce qu'on pense, c'est bien ce que la Bible dit. Et on voit l'exemple de personnes qui ont fait cela. Acte 17, 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et souvent, on dit oui, persévérer dans l'enseignement, c'est bien. Je vais à l'église et j'écoute. C'est super, mais il manque la vérification. Il manque la méditation personnelle, il manque le travail derrière personnel, seul avec Dieu, face à face. Et ça, c'est un point qu'il faut garder en tête, de faire comme les gens de Bérée, qui vérifiaient si ce qu'on leur disait était bien conforme aux Écritures. La deuxième chose qu'on a lue donc dans les Actes au verset 42, la communion fraternelle. Et là, nous pouvons en voir au verset 44, juste après. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu, ils avaient plaisir à se rassembler. La communion fraternelle. Au verset 46, il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Assidus au temple. Est-ce qu'on a une assiduité personnelle qui vient de notre amour pour le Seigneur, non pas une assiduité forcée, ou par peur que le pasteur nous appelle, ben alors, vous étiez où? Non, ce n'est pas ça qui importe. Ça, c'est une mauvaise assiduité. En tout cas, c'est même un mauvais acte. Si le pasteur est là, il vous persécute. Mais il ne fait pas le bon rôle. Il n'a pas le bon rôle. C'est par amour. Et on peut venir à l'église par amour, comme il nous l'était rappelé samedi soir, que si on a compris que c'était une grâce que de venir à l'assemblée. une grâce d'avoir des frères et des sœurs sur qui on pouvait compter. Cette jeune fille qui demandait si quelqu'un avait de la place dans son garage ou dans une cave, quelque chose pour stocker ses quelques cartons, ses 8 cartons, le temps qu'elle serait en stage. De savoir qu'il y a une famille de Dieu qui peut nous faire du bien, sur qui on peut compter, qui peut nous donner une parole d'encouragement, ou parmi laquelle on peut entendre un don spirituel, quelque chose pour nous, une parole d'encouragement, quelque chose. Que c'est beau la famille de Dieu. Quelle est belle la famille de Dieu, on chante, hein. C'est pas ça, qu'elle est belle, la famille de Dieu, on connaît ça, où tout le monde n'est plus qu'un, ne fait plus qu'un. C'est des beaux chants, que j'aime la famille de Dieu, pardon. Mais vous voyez, est-ce qu'on a compris que le fait d'avoir une famille, c'est une grâce dans le monde, les orphelins, est-ce qu'ils n'aimeraient pas avoir une famille? Moi je crois que quand même, c'est une grâce. J'ai des amis qui sont en train de faire un dossier pour adopter leur deuxième enfant. Et quand ils vont les chercher, les enfants, on pourrait croire qu'ils sont arrachés à leur pays, etc. Mais ils attendent que ça, d'avoir une famille. Ils sont dans un orphelinat, et à cause des circonstances, ils sont pas un numéro, mais ils n'ont pas l'affection qu'ils aspirent et dont ils ont besoin. Et de penser à ça, une famille, quelle chance nous avons d'en avoir une. Alors puissions-nous persévérer dans la communion fraternelle. L'autre chose, dans la fraction du pain. Souvent, avec ce verset, on pense beaucoup au fait de la Sainte-Cène. La Sainte-Cène, et c'est vrai, la fraction du pain, la coupe que nous buvons, ce moment de communion où nous sommes en communion ensemble pour annoncer que nous appartenons à Jésus, que Jésus revient, ce que Jésus a fait, pour annoncer ce que nous croyons, ce que nous avons reçu, ce que la Bible dit, pour aussi nous remémorer ensemble cette bonne nouvelle que nous avons reçue de Jésus mort à la croix pour le pardon de nos péchés. La fraction du pain aussi me fait penser à quelque chose et qui est cité là dans le verset 46 aussi. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et cette pensée que tous, même si c'est pas pour un repas physique, on peut tous apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Vous savez, si quelqu'un est maçon, il peut dire, mais moi, je vais essayer de nourrir de mon petit potentiel que j'ai, de mes qualités, je vais pouvoir partager mon pain, mes capacités, ce que Dieu m'a donné, mon talent, partager ce que j'ai reçu, la fraction du pain, je le vois comme une image aussi d'une famille autour d'une table qui partage le pain, qui rend grâce pour ce que Dieu a fait, et de pouvoir compter les uns sur les autres aussi, passer un moment où chacun apporte ce qu'il a reçu. Et on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur, c'est la Bible qui le dit, qu'on a tous reçu un talent, quelque chose de la part de Dieu, et qu'on peut tous être utiles et avoir son rôle à jouer dans la maison de Dieu. Ne vous sentez pas mis à l'écart, ne vous sentez pas inutile. Si on l'a fait, c'est par inattention. Mais tous, chacun, on a notre valeur dans la maison de Dieu. Est-ce que je peux dire que mon ongle m'est inutile? Quand j'ai cassé mon ongle ou que mon ongle s'est retourné, qu'est-ce que ça fait mal? Pourtant, c'est qu'un ongle. Pour dire que c'est tout petit. Mais ça fait mal, et dès que je touche quelque chose, ça fait une décharge électrique. Est-ce qu'un cheveu est utile? À lui tout seul, on va dire, ben non, j'en ai bien d'autres. Non, on en a d'autres quand même. Mais si jamais tout se partait, on n'aurait plus de cheveux. Si jamais il était plus long que les autres, etc. Mais la diversité aussi, on est tous utiles. Dieu nous a donné chaque chose. Un nez, si on n'avait qu'une narine. Vous savez que, tour à tour, les narines, elles s'agrandissent une après l'autre. Vous saviez pas? Et que dans la respiration, il y a toujours une narine qui respire plus qu'une autre. Est-ce qu'une narine a besoin de se reposer pendant que l'autre prend relais? J'en sais rien, j'ai oublié cette partie de la leçon. Mais ça, c'est quelque chose. On a besoin les uns des autres. Si j'ai une narine qui se bouche, j'ai toujours l'autre pour respirer. Si j'ai une oreille qui se bouche, j'ai toujours l'autre. Si je me perce un tympan d'un côté, j'ai l'autre pour entendre. Et puis même, ne serait-ce que d'être symétrique. C'est beau quand même, non? Dieu a bien fait les choses. Un œil, quelle grâce. On est tous utiles, on a tous notre place. D'où l'intérêt de partager notre utilité chacun et de ne pas manquer à notre rôle dans l'assemblée de Dieu. Élever une prière, ça peut paraître quelque chose d'insignifiant, une prière. Oh, moi je ne prie pas, je ne me sens pas, j'écoute les autres, c'est bien. Mais le jour où vous élevez votre voix, qu'est-ce que ça fait du baume au cœur? Qu'est-ce que ça fait du bien au pasteur qui sait que vous avez peur? Lui, il est dans l'intimité parfois. Et il sait que vous avez peut-être un peu peur. Il connaît votre personnalité, votre caractère. Et puis il dit, Le jour où vous élevez la voix, même si c'est juste « Merci Jésus » ou « Je t'aime Seigneur oh, », le cœur y bat. Quelle joie pour un pasteur de voir sa brebis oh, bêler. Je ne sais pas comment on dit. Je sais pas. C'est pas grave. Mais tous, par une petite prière, c'est pas grave. C'est ça, c'est bien. Tous, chacun dans notre utilité. On peut croire qu'on fait quelque chose qui est insignifiant, mais au final, souvenons-nous de ce qu'on a partagé jeudi, on croit qu'on est une petite graine, mais dans une petite graine, il y a un potentiel d'un grand arbre, quelque chose d'immense. Ne nous négligeons pas nous-mêmes. Et en parlant de la prière, l'autre chose dont il est parlé, c'est de persévérer dans les prières. Persévérer dans les prières. Et imaginez que les apôtres, que les premiers disciples, les 120 de la chambre haute, n'aient pas persévéré dans la prière. Est-ce qu'il y aurait eu la Pentecôte ? Non. S'ils s'étaient dit, bon écoutez, ça fait 9 jours qu'on attend, il n'y a rien, on reviendra un peu plus tard. Ils auraient manqué le coche. Persévérer dans la prière. Dans Actes 1,14, il est dit ceci, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Hommes et femmes, tout le monde, on a notre place. La prière. Beaucoup, souvent, on croit que la Pentecôte, on veut être rempli du Saint-Esprit, on veut vivre quelque chose avec le Seigneur, on a besoin de chercher sa face, d'être rempli tout à nouveau, et on ne le vit pas. Bien, persévérons, continuons, et la Pentecôte va venir. Je me fais cette image, vous savez, quand on fait une bassine, on a un verre, et on veut le plonger. La bassine est remplie d'eau, on veut le plonger. On veut qu'il soit plongé. Si on appuie un tout petit peu, ça ne va pas bien loin. Il remonte le verre, si on le laisse droit. Mais si on l'enfonce, au bout d'un moment, si on force, on fait un peu plus d'efforts, tout d'un coup, il passe un cap, et l'eau se met à venir dedans. Et il le remplit, il est entouré, il est rempli, il est baigné, baptisé. Il faut exercer une pression pendant un moment. Il faut persévérer. Et bizarrement, c'est de plus en plus dur parce qu'on est de plus en plus fatigué aussi. Et puis plus on va loin, plus on va profond dans la présence de Dieu, plus aussi ça demande un travail sur soi-même, d'abandonner les idoles, d'abandonner les passions, d'abandonner nos péchés et de dire pardon Seigneur. Parce que plus on s'approche de Dieu, plus on se réalise qu'il est saint. C'est comme si on s'approchait de plus en plus du soleil. Et plus ça brûle, plus on sent quelque chose. Et puis on dit mais je ne peux pas tenir. Quand on s'approche de Dieu, il faut se débarrasser, il faut dire « Seigneur, d'ailleurs c'est comme ça qu'on réalise certains péchés et qu'on arrive à prendre la victoire parce qu'on persévère à s'approcher, à chercher la face de Dieu par la prière et on est là, on s'approche. Puis au bout d'un moment, on passe un cap et puis on est baigné, rempli, renouvelé du Saint-Esprit et diverses choses que l'on peut vivre. Ça me fait penser au ballon, vous n'avez jamais essayé un ballon gonflable dans la piscine, vous jouez, vous essayez de le remonter, si vous le lâchez, toing, il vous tape. Ouais, c'est comme ça, il faut exercer un effort. Il faut aller de plus en plus loin. Persévérer dans la prière. 1 Thessaloniciens 5:17 dit « Priez sans cesse ». Et dans 1 Roi, je vais simplement le citer. 1 Roi 18, au verset 41-43, il nous est parlé d'Élie, qui prie à 7 reprises pour que la pluie tombe. J'aimerais poser une autre question. Est-ce que la première prière avait moins de valeur que la 7e ? Est-ce que la 2e, la 3e, la 4e, est-ce qu'ils ont tous plus ou moins de valeur ? Est-ce que ce n'est pas le cumul des prières qui fait qu'on a la victoire ? Parce qu'on a obéi, on a tenu jusqu'au bout. Parce qu'on pourrait dire, mais Élie, il a perdu son temps, il aurait dû venir au moment de la dernière prière, il aurait prié, il y aurait eu la pluie. Pas du tout. Je pense que Dieu, il attend à ce qu'on persévère dans la prière, et qu'on ajoute nos prières, notre foi. Et Dieu teste notre foi, notre persévérance. Et si on continue, si on persévère, eh bien un jour, Dieu fait tomber et récompense nos prières, notre persévérance. Et si quelqu'un est là cet après-midi et se dit, mais je prie pour telle situation, je prie pour telle chose, je demande, il nous était parlé d'Anne ce matin, qui est là, qui souffre, qui a une souffrance, et elle a sûrement prié longtemps avant d'avoir son enfant. Et puis un jour, c'est venu. Ne croyez pas que les prières d'aujourd'hui sont inutiles. continuer, persévérer. Les parents qui ont des enfants qui se sont éloignés, qui ne les voient pas revenir, même si rien ne change, de la même manière que Naaman a fait une première fois son lavage, a fait une deuxième fois, troisième, jusqu'à la septième, de la même manière qu'à Jéricho, ils ont persévéré 7 jours, et que le dernier jour, ils ont fait 13 tours, de la même manière encore qu'Élie a prié 7 fois, et de la même manière que Jésus a prié 2 fois pour que cet aveugle recouvre la vue, il faut que l'on persévère et qu'on ajoute les prières, notre foi, nos supplications, la Bible a dit. Pour supplier quelqu'un, ça ne se fait pas en 2 secondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je veux supplier maman, je vais lui casser les pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais l'embêter. Je dis, maman, maman, s'il te plaît. Nathanaël racontait que sa fille, de temps en temps, elle dit, écoute-moi, papa, 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 et qu'il mettait du temps à répondre. C'est pas bien, Nathanaël. Mais est-ce que c'est pas à force de persévérer? Si elle s'était arrêtée, il n'aurait jamais tendu l'oreille. Elle n'est pas là, Eloé, non? Mais c'est bien, il faut persévérer, il faut supplier, écoute-moi! Et Nathanaël, il tend l'oreille. Il faut persévérer. Est-ce que Jésus... Moi, ça m'a toujours impressionné dans Marc, au chapitre 8 et au verset 22, cette affaire où Jésus prie 2 fois. Marc 8, 22, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Je pense que Jésus avait la même onction la première fois qu'il a prié que la deuxième, que Jésus avait la même efficacité, le même pouvoir, mais que moi ça m'encourage à persévérer. Si des fois je vois une petite progression, des fois on voit les progressions, c'est pas comme Jéricho ou toutes ces histoires où on voit rien jusqu'au dernier moment, des fois il se passe un peu quelque chose, mais on néglige les petits commencements et on s'arrête là. On s'arrête de prier, on dirait bon j'ai déjà eu ça, ça me suffit. Non, il faut continuer, persévérer. Ne pas se relâcher. Et on verra que Dieu, ce qu'il fait, c'est parfait. Et il le fait jusqu'au bout. Il n'abandonne pas son travail. Il ne fait pas comme moi ou comme nous parfois. Et un dernier point dans lequel nous pourrions persévérer, je vais vous laisser le deviner, dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 11 et 12, de Timothée 11, 12. Cette parole est certaine. De Timothée 2, 11, 12, pardon. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. De quelle attente est-il parlé? De quelle persévérance est-il parlé? La conséquence de cette joie, de ce qu'on va recevoir, c'est bien sûr de régner avec lui, mais qu'est-ce qui va se passer avant? Comment? Le retour de Jésus. Persévérer dans l'attente de son retour. Jésus revient. Oh, quelle bonne nouvelle! J'aimerais vous dire que Jésus revient. Il n'y a pas d'amen?
Amen.
Je ne sais pas. Amen. Ça ne boue pas dans votre cœur. Jésus revient. Peut-être que ça peut faire peur. Parce que c'est 2 nouvelles, une très très bonne et une très très mauvaise, ça c'est clair. Mais quand on est au clair, quand on est sauvé, quand on marche en nouveauté de vie, qu'est-ce qu'on a à craindre? Quand on est en règle avec le Seigneur, on a fait la paix, on a compris qui il était, et du coup ça a forcément des conséquences, on change notre manière de vivre, on règle les affaires quand on se loupe, eh bien c'est pas grave, on se relève, le Seigneur a dit qu'il était encore prêt à nous pardonner, même après, c'est pas vrai? Est-ce qu'on se loupe pas des fois? Est-ce qu'on ne chute pas parfois? Après être converti, après s'être engagé avec le Seigneur. Vous êtes parfait, c'est génial. Vous êtes parfait, c'est super. Moi, je crois qu'on... En tout cas, moi, je vous confesse. Ça m'arrive de me manquer. Mais je sais, et je lui fais confiance au Seigneur. Et je me rappelle ça. Je dis, celui qui m'accuse, c'est le diable qui veut me laisser par terre et qui prend un malin plaisir à me piétiner. Mais il y en a un qui me tend la main pour que je me relève. Et qui veut que je sois debout. Si quelqu'un est là cet après-midi et qui se dit « mais je suis trop mauvais » et si Jésus revenait, changez d'optique. changez de manière de voir. Dites-vous, Jésus revient, alors vite, je me relève. Pour que quand je reviens, il me trouve debout. Il me trouve les yeux fixés vers lui. Il me trouve courant dans la course, dans cette course que nous avons. Celle aussi qui nous pousse à parler aux autres, à témoigner, à des témoins. Jésus revient. Et persévérer dans l'attente du retour de Christ, ça ne nous laisse pas sans rien faire. Persévérer dans l'attente du retour de Jésus, ça nous pousse à aller vers les gens. Mais Jésus revient, je vous en supplie, si vous entendez sa voix, si vous réalisez que vous êtes pécheur, faites la paix avec Dieu, parce qu'un jour il va revenir et chacun rendra des comptes. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Et c'est jour de grâce aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça le message qu'on porte, qu'on a envie de partager, parce que Jésus revient. Jésus revient, bonne nouvelle pour nous, mais quelle tristesse pour tous ceux qui l'auront refusé. Si un frère dans l'assemblée est là et vous entendez parler de difficultés dans sa vie, où il est boiteux, ou bien il est dans sa vie n'est pas trop claire, et peut-être lui ne le remarque pas. Il est peut-être honnête, lui. Peut-être que moi, j'ai blessé quelqu'un et je n'ai pas réalisé que je l'ai fait. Et j'ai été une occasion de chute. Est-ce que ça ne serait pas mieux que j'ai réglé cette affaire avant que Jésus revienne? Alors venez me voir, Jérémie. Tu as fait ça? Voilà, je te le dis pour que tu puisses le régler. Et vous me ferez un grand bien, parce que vous m'aurez aidé. Et c'est valable pour moi, pour Nathanaël, tu veux aussi? Oui, ça va. Monsieur Richer aussi, ça va? Tous? Est-ce qu'on est prêt à recevoir des conseils ou bien des petits reproches? Pas des reproches, mais des conseils. Vous voyez, c'est bien tourné, il faut savoir le dire aussi, c'est sûr. Si on vient en vous tapant sur la tête avec la Bible, pharisien, ça ne fera pas le même effet. Je pense que ça va te tuer. Mais si jamais on le fait avec amour, mon frère, tu te souviens de ça? Tu m'as blessé. Je te pardonne, je suis prêt à te pardonner, mais est-ce que tu avais compris que tu m'avais blessé? Je n'avais pas réalisé. Oh ben merci de me l'avoir dit, je m'excuse. Je te demande pardon. Et puis on se fait une embrassade fraternelle. Et puis voilà. On peut revenir avec le sourire, parce que quand on n'aura pas réglé les choses, on vient à l'église, la tête basse. Quand on va dans notre chambre, qu'on pense au fait qu'on doit prier, on n'a pas envie, parce qu'on sait qu'il y a un problème à régler et on ne veut pas le régler. Des fois, on est au courant du problème et on ne veut pas. Alors persévérer dans cette attente qui nous pousse à agir, qui nous pousse à avoir une attitude, une vie en règle, c'est aussi simple que ça. J'ai voulu être simple. Cet après-midi, dans 6 points, je vous les rappelle, persévérer dans la foi, parce qu'avec cette foi, si on persévère dans la foi qui est appuyée sur les promesses, la foi ne crée pas des miracles. La foi s'appuie dans les promesses, elle nous donne une confiance en Dieu, et puisque Dieu nous a promis des choses, on va les voir, parce que Dieu ne ment point. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, en vérifiant si ce qu'on nous enseigne, c'est bien la vérité, si ce que je lis dans un livre X ou Y, c'est bien conforme à la Bible. Persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire eh bien, être assidu par amour pour Dieu, demander à Dieu cet amour pour son assemblée, pour les frères, pour les sœurs. Si j'ai quelque chose, je le règle avec. Et puis même, je viens parce que je me sens bien dans la maison de Dieu et réaliser que si Dieu a réussi à m'aimer, c'est possible que j'arrive à aimer d'autres personnes parce que moi, je ne suis pas aimable. Je ne suis pas aimable. Dieu qui est si saint, il ne pouvait pas normalement m'aimer. Il fallait vraiment qu'il soit Dieu en tout cas. Et puisqu'il est Dieu, il m'a aimé quand même. Alors à mon tour, je peux faire un effort. Aimer mes frères et sœurs, pardonner. Régler tout cela. La fraction du pain, persévérer dans la fraction du pain. Oui, la Sainte Cène, ce repas, nous persévérerons jusqu'au bout. C'est dommage d'enlever la Sainte Cène de tous les dimanches. Je pense que c'est un minimum tous les dimanches, puisqu'il n'est pas donné de régularité dans la parole de Dieu. Il dit chaque fois que vous en boirez, chaque fois que vous ferez cela. Donc il n'y a pas de date ou quoi. Et au plus on le fait, au plus on persévère, au plus on a des occasions de se remettre en question, d'annoncer, de faire tout ce qui concerne la Sainte Cène, mais aussi de partager notre bien. Partager. La fraction du pain, partager ce qu'on a reçu. Ça peut être un talent, ça peut être des biens, on peut être riche. Eh bien, on achète des pommes et on distribue les pommes, on achète, j'en sais rien. On fait du bien autour de nous, fraction du pain. Persévérer dans la prière. Cette prière efficace qui, si on persévère, nous fera porter du fruit, nous donnera aussi de voir ce que l'on demande, et persévérer dans l'attente du retour de Christ, parce que s'il revient, c'est une bonne nouvelle pour nous, peut-être, mais c'est quelque chose de grave pour les autres, et nous avons notre rôle à jouer, alors que ça puisse nous motiver pour agir. Amen. Seigneur, sois béni pour ces rappels. Je te remercie parce que tu nous aimes et tu nous parles par ta parole, tu nous as laissé ton conseil parfait. Qu'il puisse porter du fruit dans notre vie, parce que nous vérifierons en rentrant si ce qui a été apporté est bien conforme à ta parole. que ce ne soit pas cru parce qu'on a confiance simplement, mais cru parce que tu l'as dit et on sait que ça vient de toi parce qu'on l'a vérifié. Sois béni mon Dieu, parce que je crois que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait ton effet. Le message que tu voulais passer, Seigneur, faire passer, qu'il puisse accomplir et porter du fruit en chacun d'entre nous. Amen.